Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse ?
Le règlement.
Nous devons savoir.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Maître Sophie Mongeon, qui devient une des stars de l'émission, elle reçoit des appels sur sa boîte vocale au bureau, des auditeurs de l'émission fidèles. Mais merci à vous, c'est très apprécié par Sophie, d'ailleurs, qui était toute contente de nous dire ça tantôt.
Oui, la semaine passée, là, sur ma boîte vocale, j'avais deux messages de fidèles auditeurs qui me disaient qu'ils appréciaient vraiment ce qu'on faisait, puis qu'ils adoraient le livre des règlements. Alors merci, c'est sûr que ça fait chaud au cœur d'avoir ce genre de messages.
Le but de la chronique, c'est on prend un sujet de sport et ensuite on ramène ça à votre réalité, parce que nul ne doit être ignorant devant la loi, puis on sert du contexte du sport pour ramener ces sujets-là importants pour les auditeurs. Et aujourd'hui, on entre dans le domaine des contrats.
Oui.
Bien sûr, les gens qui ont un emploi, exemple au gouvernement et tout, ou bien un poste permanent, qui ne sont pas à contrat, ben peut-être que vous serez un peu moins ciblé par ce qui va être amené. Mais ben vous êtes fan de sport et puis on parle beaucoup de contrats. D'ailleurs, on s'en va vers cette signature-là. Là, à la fin de l'année, il va y avoir des grosses négociations. Et avant le 1er juillet, on va s'entendre avec certains joueurs. Et on va parler du fameux lexique « clause de non-échange »,« clause de non-mouvement », et etc.
Oui, effectivement, on entend parler souvent des termes juridiques. Puis je pense des fois, on fait tout en semblant qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire.
Oui.
Mais moi, j'entendais ballottage. Puis c'est plus fort que moi. Je dois comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire ballottage. Est-ce que c'est tout le monde qui a accès à ça? J'ai fait des recherches là-dessus pour afin de comprendre. Fait que là, ce matin, j'ai l'intention de vous parler de termes contractuels, mais tu sais, initiation aux domises, là, pour la règle 101.
Pour les nuls.
Fait que dans le fond, le ballottage, là, qu'est-ce que c'est là, au départ?
Ah, oui. Ben, le ballottage, c'est. Ben, tout le monde peut être mis au ballottage. Si tu ne fais plus l'affaire, tu joues dans une équipe de. Ben,
une
équipe
avec de... une certaine expérience, il y a des critères.
Oui, oui. Il faut que tu sois vétéran. Il faut que tu aies joué plus que tant de matchs, tant de saisons, tant d'années de contrat. Il y a des. Moi, je ne connais pas les règlements là, à la lettre. Là.
Et c'est pour ça qu'on a le livre des règlements. Puis
c'est
je vais vous l'expliquer.
C'est
ce
ça,
matin.
Exactement. Donc, après, mettons, après 7 ans, je suis en même équipe. Puis là, le club, je fais pas le job. Mais ils peuvent me mettre au ballottage.
Oui.
Et à partir de là, si je suis réclamé par un autre club, ben je m'envoie à l'autre club.
Et il faut se conformer à la liste de 23 joueurs.
Exactement.
Quand c'est le 24e.
Exactement. Ben, sinon, ben, le club a l'option de me ramener avec le gros club ou de me céder dans les mineurs.
Ben c'est ça. Donc, l'objectif du ballottage, au départ, c'est pour pouvoir retourner un joueur dans la Ligue américaine.
C'est ça.
Fait que ça, strictement parlant, c'est ça au départ. Et pour être admissible au ballottage, il faut que tu remplisses un de ces deux critères-là. Donc, le premier critère, c'est le nombre d'années que tu as signé ton contrat. Mm-hmm. Dépendant de ton âge, bien sûr, c'est bien important. Par exemple, un joueur qui a signé un contrat à 20, 21 ou 22 ans, pour être admissible au ballottage, il faut qu'il ait signé un contrat, par exemple, de 3 ans. Donc, à ce moment-là, s'il y a eu un contrat de 3 ans et il est mis au ballottage à 20, 21 ou 22 ans, il peut être admissible au ballottage. Sinon, il va te retourner automatiquement dans la Ligue américaine. Okay. Fait que ça, c'est un des deux critères. Pour les joueurs de 25 ans et plus, la règle est beaucoup moins stricte parce qu'effectivement, on prend notion de l'âge. On fait de l'âgisme positif dans la Ligue nationale, ce que je trouve quand même très bien. Fait que si, effectivement, ton nombre de contrats n'est pas adéquat, sinon, on peut se rabattre sur le nombre de parties disputées.
Oui.
Par exemple, si tu es un joueur de 23-24 ans et que tu as joué plus de 60 matchs, ben à ce moment-là, tu es aussi éligible au ballottage.
Okay.
Donc, c'est les deux critères simplement parlant pour le commun des mortels pour qu'on comprenne.
Et si un des deux est rencontré, tu es soumis au ballottage?
Exact. Faut que ce soit un ou l'autre, c'est pas un « et ».
Et ça, c'est pour te garder une place dans la Ligue nationale. Donc, c'est quelque chose qui est négocié par l'association des joueurs.
Ouais. Ça me donne la chance de négocier.
Ben, c'est ça. Parce que tu perds ta place en haut.
Alors, club qui peut.
C'est un contrat de deux volets. Ben là, tu as le salaire d'en bas. Alors, ça se peut. Quand pendant 24 heures, on t'offre la chance de garder un job dans la Ligue nationale. Et c'est ça le principe du règlement.
Oui, ça c'est très bien. Fait qu'une fois, mettons que tu étais soumis au ballottage et tu as été repris par une équipe quelconque, à ce moment-là, tu signes un contrat, donc une entente, là, qui est un contrat entre les parties pour discuter du salaire, du nombre d'années, etc. Puis certaines clauses. On en avait parlé d'ailleurs une fois dans une émission, des clauses loufoques qu'on avait retrouvées dans des contrats. T'sais, tu te rappelles là, du joueur qui voulait pas être dans la même ligue ou la même chambre que l'autre parce qu'il y avait des biscuits en forme d'animaux qui collaient dans les comptes. Là.
C'était aussi ce que Skelec and Ghost.
Ça revient tout le temps.
Mais les contrats sont respectés, Sophie, par exemple. Si moi j'ai un contrat de 3 ans, mettons je joue avec la Canadienne, Puis, je sais pas, moi, les North Stars... non, les North Stars. Les Stars de Dallas, les North Stars, c'est dans mon temps. Les Stars de Dallas me réclament, mais mon contrat suit. S'il me reste une année de contrat plus une année d'option, mais les Stars ramassent mon contrat.
C'est ça. Alors, c'est pour ça, des fois, qu'on va dire, avec la lourdeur du contrat, ils ne sont pas réclamés.
C'est ça. J'ai pas besoin de renégocier un contrat parce que le contrat est honoré par l'autre club.
La nouvelle équipe.
Tu ne deviens pas un agent libre à ce moment-là.
Non, non, non.
Si tu es racheté.
Oui, exactement.
Comme Ilya Kovalchuk cette année, avec racheté par les Kings de Los Angeles, devenu libre comme
c'est un buy-out, ça. C'est un rachat de contrat.
Oui, mais je vais y arriver à ça. Fait qu'effectivement, tu signes un contrat, puis à part les petites clauses loufoques dont on discute, il y a souvent des clauses qui sont des clauses de non-échange ou des clauses de non-mouvement. Ces clauses-là dans le contrat sont surtout pour protéger les joueurs. Tandis que quand on parle des clauses civiles de non-sollicitation puis de non-concurrence, c'est surtout là pour protéger les employeurs. Fait que donc, par exemple, une clause de non-échange et de non-mouvement, pour avoir accès à ces clauses-là, il y a quand même deux critères, là. Faut que soit que tu aies joué 7 ans dans la Ligue nationale ou que tu as 27 ans et plus d'âge. Donc, si je comprends bien, à moins que je me trompe, là, j'ai pas tout le temps la science infuse, mais si tu as un de ces deux critères-là, tu peux rajouter dans ton contrat ces genres de clauses.
Mais le club peut refuser ça, par exemple. Je pense pas que le joueur a... Je pense pas que le joueur peut dire exiger une clause de non-mouvement ou de non-échange.
Mais comme t'es agent libre, ben
non, mais tu sais, mais ça, souvent, ça va se faire avec des joueurs étoiles. Les joueurs, tu sais, les Shea Weber, les Carey Price, tu sais, ces gars-là. Mais tu sais, le joueur de quatrième trio ou le cinquième, sixième défenseur, ils n'ont pas de clause de non-mouvement.
Non, ils n'ont pas ce pouvoir de négociation-là, bien sûr. Tu sais, ça, c'est. Dans le fond, c'est.
Ça, c'est nouveau parce qu'il n'y avait pas ça dans le temps.
Il n'y avait pas ça dans ton temps?
Non, absolument pas. Il n'y avait pas ça.
Dans le fond, une clause de non-échange, ça veut dire que le joueur doit entériner dans sa transaction qu'il accepte qu'il soit non-échangé ou qu'il soumette des listes d'équipes préétablies pour je veux ou non telle équipe.
Ouais.
La clause de non-mouvement, c'est que le joueur ne peut pas être échangé dans les mineurs sans son consentement.
Alors, pour l'instant, chez le Canadien, Carey Price a une clause de non-mouvement.
Lui, il s'en va nulle part.
Exactement. Ben Chiarot, il y a une liste de 10 équipes où il ne veut pas aller.
Clause de non-échange.
Ça, de non-échange.
Avec restriction.
Exactement.
Avec restriction. Puis tu as des restrictions partielles aussi.
7 équipes où il ne veut pas se faire échanger. Et Jeff Petrie, non-mouvement et non-transaction, liste de 15 équipes où il ne peut pas être transigé.
Jeff Petrie, il veut rester à Montréal.
Oui, mais ça peut changer en cours de route, hein, à chaque saison.
Mais on peut demander de lever une clause.
Oui, on peut. Puis à chaque année, le contrat peut être renouvelé dépendant des équipes, etc.
Et il y a une année où est-ce que tu atteins ta clause de non-échange et avant de l'atteindre, ben tu es disponible aussi. Là. Donc, à partir de la troisième année du contrat...
Comme Piqué-Souban.
Exactement. Ouais. On l'a échangé avant... qu'il ait et le boni et la clause.
Je me demande s'il y avait justement dans son contrat à lui fait des spécifications d'équipe chez qui il voulait aller ou pas aller ou finalement de toute façon tu sais
si il n'avait pas de clause, il n'avait pas atteint ça encore.
Il n'avait pas.
Je pense que s'il jouait une autre saison ou s'il amorçait la saison qui s'en venait
deux semaines plus tard.
C'est ça, la clause en échange, le mouvement aurait été comment est-ce qu'on dit ça?
Effective, en vigueur.
En vigueur, exact.
Mais c'est ça, dans le fond, ces clauses-là, c'est pas n'importe qui peut les invoquer là, pour demander ça dans un contrat. C'est ceux, effectivement, qui ont joué plus de 7 ans puis qui ont 27 ans d'âge pour pouvoir demander ou instaurer là, ces genres de transactions-là. Mais là, effectivement, t'es sous nos ballottages, tu signes un beau contrat, donc tu te fais mettre des belles clauses de non-échange et de non-mouvement.
Ça, c'est en tant que joueur autonome, tu signes un nouveau contrat. OK, parfait.
Puis après ça, je voulais aussi comprendre un peu, c'était quoi la différence entre agent libre restreint puis agent libre sans restriction?
Oui.
La différence, dans le fond, des fois, on entend parler, mais je sais pas si on sait vraiment qu'est-ce que ça veut
encore
dire.
Encore une fois, c'est le nombre d'années, le nombre de matchs joués et tout ça.
Bien, pas vraiment. Dans le fond,
nombre d'années de contrat.
Non, c'est que quand tu deviens agent libre restreint, c'est que le joueur est libre de solliciter d'autres équipes pour des nouveaux contrats, sauf que si quelqu'un lui offre...
Il y a une compensation.
Non, si quelqu'un lui offre un nouveau contrat, le club peut matcher.
Ouais. On appelle ça une offre hostile dans ce temps-là, et c'est assez rare.
Une offre hostile, on a vu une cet été. Le Canadien a offert une offre hostile là, à Sébastien Aho de la Caroline, puis le club a matché, donc il est resté avec son ancien club.
Ben c'est ça, donc il était agent libre restreint.
Et avec restriction, c'est dans les premiers contrats signés par le joueur, donc ça se voit chez les jeunes joueurs de la Ligue nationale.
C'est ça. Eux, dans le fond, ils pourront pas évoquer les deux autres clauses qu'on vient de solliciter, de discuter, parce qu'ils n'ont pas les termes précis, l'âge et le nombre d'années. Et ensuite, l'agent libre sans restriction. Lui, il peut signer avec n'importe quelle équipe sans restriction. Donc, il n'y a pas cette histoire de matchage.
Non, absolument pas. Okay. Il est libre comme l'air, lui.
Ce qu'on sait, par exemple, c'est que c'est dans les années 70 que ces notions-là sont venues en vigueur un peu, là. Puis, ce que j'ai compris, c'est que c'est ça qui a été la cause du lockout en 2004 et 2005.
Ouais.
Toute l'histoire de plafond salarial, parce que ça l'a emmené toute l'histoire de plafond salarial, et c'est là qu'est arrivé le lockout en 2004-2005.
Ben, c'était c'est la volonté, nouvelles... oui.
Dans mes années à moi, il n'y avait pas d'agent libre sans compensation. Ben, non plus, là.
Non, mais c'est pour ça qu'avec cette arrivée-là, de ces nouvelles joueurs-là, cette nouvelle nom qu'on donnait aux joueurs, c'est là qu'est arrivée l'histoire des plafonds salariaux. Ouais. Parce que ça créait une compétition avec les équipes qui étaient mieux nanties, là.
Le seul moyen que tu étais agent libre sans compensation dans ce temps-là, c'est si le club t'offrait un contrat, il appelait ça un termination contract. Tu t'offrais juste un an, puis là, t'étais libre d'aller, tu pouvais aller où tu voulais. Sinon, le club t'avais des années d'options dans ce temps-là, puis le club, tu négociais ton option, puis là, tu renégociais un contrat, tu restais avec le même club.
OK. Donc, c'est des clauses qu'on entend parler. Des fois, est-ce qu'on les comprend réellement? Alors, je voulais faire un petit tour là-dessus et nous emmener aussi dans notre monde de personnes régulières, là, tu sais, le citoyen qui nous écoute.
Exact.
Parce que nous aussi, des fois, dans nos contrats de travail, on va avoir ce qu'on appelle des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation.
Moi, j'ai une clause en non-échange. Je suis un joueur concession, mais je veux rester ici.
OK. Oh. T'as le franchise tag par le citoyen.
Moi, j'ai une liste de radio où je ne vais pas être échangé.
Comme Tom Brady.
Okay. Bien,
Gilbert, j'aimerais ça que tu aies une clause à même aussi. Là. Ouais. Je sais pas que tu bouges. Là. Mais Gilbert, lui, on le voit des fois RDS. Faut pas le prendre pour acquis. Là. Il est en demande partout. Là.
Vous avez ce que j'appelle une bromance.
Bromance. Ça, c'est pas un contrat entre nous. Là.
C'est quelque chose qui se vit. Oui, c'est une bromance, mais de chum de gars. Là. OK, donc pour nous, là, les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation. Une clause de non-concurrence, ça veut dire que l'employeur te fait signer un document pendant que tu es à son emploi, comme quoi tu ne peux pas aller travailler pour un concurrent. Par exemple, j'avais une copine là, qui avait un contrat avec Québécois. Et puis, à ce moment-là, elle ne pouvait pas aller travailler chez un concurrent. Elle avait ça pour une période approximative de 12 mois.
Ah oui?
Ouais. Et effectivement, non-sollicitation, c'est par exemple, moi, pour une raison X, ça n'arrivera jamais. Je ne travaille plus chez Desroches-Mongeon Avocat et je décide d'aller partir une entreprise de compétitive. Je n'ai pas le droit de solliciter les clients. Il ne faut pas que je sois actif. Mais si je mets des annonces et les clients viennent me voir, c'est une autre histoire. Et les tribunaux jugent que ces clauses-là sont valables maximum 12 mois.
Les contrats, ce qu'on va dire souvent dans le travail des gens qui nous écoutent, dans le nôtre, c'est souvent des contrats qui vont protéger l'employeur. Est-ce que c'est vrai? Ou ça protège égal les deux parties, selon ton expérience?
Les deux clauses que je discute ce matin, ça protège l'employeur. Lui, c'est pour son intérêt général, pour éviter que quelqu'un lui cause du tort, etc.
Advenant le cas, tu te fais congédier, par exemple. Là.
Mais quand tu te fais congédier ou tu es.
C'est comme ta chum là, qui travaillait chez TVA. Maintenant qu'elle se fait mettre dehors, elle, puis elle décide le lendemain matin, elle m'a travaillé chez RDS. Radio-Canada ou whatever. Là.
Oui, mais si tu as été congédié, c'est difficile pour ça, par la suite, pour l'employeur d'invoquer devant les tribunaux une clause de non-concurrence.
Ouais, c'est ça, là.
T'sais, je veux dire, c'est un peu artisan de son propre malheur. C'est très difficile.
Si tu veux pas que j'y aille, ben, garde-moi.
Mais ça doit me garder. Ben oui, moi je vous défendrais bec et ongle là-dessus.
Si la clause, il y a 12 mois, ben, paye-moi pendant 12 mois, ben après ça, tu comprends, là.
Exact. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, par le temps que ça procède devant les tribunaux, tu sais, maximum 12 mois, tu as le temps d'avoir recommencé ta vie, puis tu continues tout simplement. Là.
Maître Mongeon, gardons-nous en réserve le sujet des 26 000 dossiers en suspens devant la Cour municipale de Montréal. On n'a plus le temps ce matin, mais il faut absolument revenir là-dessus.
Ben oui, parce que je vous donne un truc, comment vous en sortir.
Oh, excellent. La semaine prochaine. Sophie Mongeon, merci beaucoup.
Merci.